Bonjour à tous. Le soccer exacerbe les passions, ça fait évidemment partie de tout ce qui nous plaît dans ce magnifique sport, mais il y a des jours où ces passions ne représentent pas grand-chose par rapport à certains événements, sont noyées sous d'autres émotions et on se rappelle finalement que c'est rien que du foot. Reste que sa popularité lui permet de faire passer certaines valeurs et je ne vous cache pas que la prise de parole d'Alejandro Bedoya ce dimanche en plein match pour pousser le Parlement américain à mettre fin aux fusillades qui endeuillent les États-Unis quasiment au quotidien m'a beaucoup ému, positivement, et m'a aussi rendu très fier. Toujours dans les émotions bien différentes cette fois, je voudrais dédier cette émission à mon ancien prof d'allemand, Christian van der Zeel, un passionné, un connaisseur de foot décédé la semaine dernière, un prof sévère, mais juste une combinaison dont je ressens encore l'influence dans mon travail de journaliste. Bon voilà, on peut se lancer dans cette émission coup franc, Mathias Van Alst au micro, on va beaucoup parler de la défaite de l'Impact à Colorado, mais aussi du futur. Et ce, avec les membres habituels de l'équipe, à commencer par le rédacteur en chef de Québec Soccer, Quentin Parisis. Salut Quentin.
Bonjour, bonjour. Après cette introduction un peu lourde en émotion, on vient apporter quand même un petit peu de bonne humeur. Sachez, chers amis, que Québec Soccer va bientôt sortir. Il sort cette semaine, là. C'est vraiment, ça va sortir. Restez connectés sur le québecsoccer.ca. Et bonjour à tous. Bonjour Mathias. Bonjour Eric. Bonjour les auditeurs. Moi, j'ai passé un bon week-end. Alors voilà, je voulais vous le partager ma bonne humeur. Ce fut un week-end ensoleillé. Et donc, malgré la défaite de l'Impact, ça a été un match quand même plaisant à suivre avec des choses assez invraisemblables parfois, mais ne boudons pas notre plaisir même si c'est de la défaite pour l'Impact de Montréal. Il y a eu des buts, il y a eu des rebondissements et comme tu l'as dit, c'est aussi pour ça qu'on aime le foot.
Parlant de plaisir, la semaine dernière, tu nous avais annoncé la sortie prochaine de Québec Soccer et tu nous avais promis de nous révéler quelques ingrédients du menu cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu ?
Pas mal de choses, mon cher Mathias. On a beaucoup travaillé, en tout cas, ça, il faut le signaler. Et donc, nous avons une entrevue avec la révélation de l'Impact de Montréal. Je pense que il y aura beaucoup de monde d'accord avec nous sur ce point-là. C'est Chamichaume qui nous a accordé une entrevue en tête-à-tête et qui revient sur beaucoup de choses, sa situation à l'Impact, les explications pour lesquelles il réussit une bonne saison, sa famille, ses études. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette entrevue. Un gros dossier également, un petit peu à côté du foot, mais sur une thématique qui est aussi importante et qu'on a voulu aborder, c'est l'écologie. On est allé voir un peu ce qui se faisait en matière d'écologie dans le monde du foot et du monde du soccer. On a regardé en MLS, on a regardé du côté du Québec, on a regardé à l'international. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans ce dossier spécial écologie dans le milieu du soccer que je vous conseille de lire. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Juste une dernière petite précision, le portrait d'une jeune athlète qu'il faudra vraiment suivre, c'est du soccer féminin, Lara Kazandjian, et je vous invite à aller découvrir également cette athlète dans les pages de Québec Soccer.
Maman, on a hâte de lire tout ça, je suis sûr que notre complice habituel qui est avec nous comme à l'accoutumée, le gardien de Vieux Parc, Éric Chenois, a aussi très hâte de lire le prochain numéro de Québec Soccer. Salut Éric.
Tout à fait, j'ai très hâte, sachant maintenant qu'il y a une entrevue avec Chamichaume, la révélation effectivement de cette saison de l'Impact, même si ça a ralenti un peu dans les dernières semaines, mais j'ai très très hâte de lire ça. Alors bonjour à vous, et bonjour aux auditeurs, et des salutations toutes spéciales à notre ami Alejandro Bedoya, et aussi aux gens de la MLS qui ont décidé de ne pas sévir, malgré le caractère quand même un peu beaucoup même politique de sa remarque. Et il faut saluer ça, bravo. Et en plus de ça, il se retrouve joueur de la semaine. Alors, pourquoi pas, ça envoie un message et c'est très bien.
Ça envoie un message, c'était d'ailleurs le tweet à double sens de la MLS hier après le résultat, la victoire de Philadelphie 1-5 à DC United. C'était Bedoya et Philadelphie envoie un message. C'est aussi extrêmement bien trouvé.
Bon, excellent.
Place à cette émission coup franc qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Vieux Parc et Québec Soccer, et à celle de tous les supporters de foot qui nous écoutent, utilisent le mot-clé coup franc pour interagir avec nous sur Twitter, et aussi à ceux qui nous trouvent nuls et puis qui râlent à chaque fois qu'ils constatent qu'on a raison, et vous, d'ailleurs, là-bas dans le coin, faudrait arrêter de râler un petit peu, s'il vous plaît. Bon, que ça plaise ou non, l'émission commence toujours avec une question à laquelle il faut répondre en un seul mot. Et cette semaine n'était pas simple. On vous a demandé ce qui avait été le plus problématique dans le jeu de l'Impact à Colorado. Et par jeu, on excluait donc tout ce qui concernait le mental, les efforts et autres aspects liés au désir et à la psychologie. Alors, messieurs, je suis très curieux d'écouter vos réponses.
Ben, je vais me lancer. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce match-là et qui ne fonctionnait pas, c'était la lenteur. C'était d'une lenteur incroyable. C'était presque aussi lent que le match des légendes qu'on a vu le lendemain au Stade Saputo. Ça jouait en marchant. On aurait dit des joueurs retraités qui faisaient peut-être même un peu d'embonpoint. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop compris pourquoi on ne courait pas sur ce terrain. Est-ce si difficile de jouer au Colorado? Je me posais la question pendant tout le match. Je sais pas pourquoi ils ont pas couru. Et puis, tout d'un coup, comme ça, notre ami...
Tu parles de 11 joueurs ou de 22 joueurs qui couraient pas?
Oh, je regarde surtout du côté de l'impact. J'ai trouvé que Colorado a joué son match comme il le joue d'habitude, c'est-à-dire de manière plus ou moins efficace, malgré les 6 buts. On y reviendra certainement. Mais tout ça pour dire que quand notre ami Mathieu Chouanière est monté sur le jeu et qu'il s'est mis à courir un petit peu, ben, soudainement, l'impact a marqué 2 buts. Coup sur coup, et puis voilà, je pense que ça donnait un petit peu les indications sur comment prendre ce match, et puis c'est pas ça qui a été fait du tout, donc moi honnêtement, à être Rémi Garde, je m'arracherais les cheveux, je comprends pas pourquoi ces joueurs-là n'ont pas couru, tout simplement.
De mon côté, c'est la coordination défensive, je m'explique, évidemment la défense a pris l'eau, Bush a été le plomb de cette défense, mais il est évidemment, c'est ce qui a été le plus visible, c'est les erreurs de Bush. Sauf que les erreurs de Bush, elles s'inscrivent aussi dans un contexte où une défense, c'est pas seulement un joueur. Il peut y avoir une erreur individuelle, mais c'est aussi du marquage qui est parfois un peu lâche et qui entraîne une autre erreur derrière. C'est un peu le jeu des dominos. Donc il y a quand même pas, il y a eu pas mal d'élasticité au sein de la défense montréalaise, avec en point d'orgue, je le répète quand même parce que je voudrais pas faire le procès de tous les défenseurs, sachant que Bush est quand même sur 4 buts au moins le principal fautif, mais il y a quand même cette communication qui a manqué, cette clairvoyance entre les différents défenseurs de qui devait marquer qui, ou celui qui était au marquage devait faire l'effort pour réellement marquer le joueur. Bush devait plus parler pour s'imposer dans les airs ou dans sa surface. Bref, cette sorte de coordination défensive donc a pris l'eau de toutes parts.
Et de mon côté, c'est base, parce qu'il y a énormément de bases qui n'étaient pas là. Bon, Bush, on en a parlé et on en reparlera, que ce soit sur ses sorties ou même d'autres interventions, et bon, l'autobut qui, sans Bedoya, aurait peut-être été le but de la semaine en MLS et aurait fait le tour de la planète tellement il était risible, mais aussi dans la construction, dans leur relance, il y a des actions simples, et Rémi Garde a insisté, j'ai trouvé ça très intéressant, sur les actions offensives très simples, qui aurait dû être réussi en première mi-temps. Finalement, le ballon a été perdu de manière assez bête, par faute de concentration, faute de précision, faute de tout ce que vous voulez. Il y a d'autres choses dont Quentin vient de parler aussi. Et donc finalement, bah oui, il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de cohésion, parce que certaines bases du jeu n'étaient simplement pas appliquées. Et bah, évidemment, quand on se trompe dans les lettres de l'alphabet, les mots qu'on lit avec les mauvaises lettres, ben, ça donne des mots qu'on ne comprend pas et personne ne s'est compris sur ce terrain. Autre réponse, de votre côté, chers auditeurs, il y a eu marquage de APB, milieu de Machibouzouk, aérien de Guillaume Vaillancourt, relance de fan français de l'Impact de Montréal, leadership de Sim Cloutier, couverture d'Antoine-Sylvain Côté, corner de Francis Côté, sortie de David Vanier ou encore bouche de Yannick Hamelin. Avant de se pencher sur le cas du gardien de but, de toute façon on le fera, j'ai quand même vous poser une question qui, disons, pour ceux qui voient juste le score, peut paraître inutile, avec une réponse évidente. Ils ont encaissé 6 buts, ils ont marqué 3 buts, ça veut dire qu'ils ont hyper mal défendu, mais très bien attaqué?
Bah déjà, ils ont pas marqué 3 buts, ils en ont marqué juste 2.
Oh
bah non, mais c'est vrai, quoi. Allez, je veux dire, t'as déjà vu un autobut comme ça, toi? Il n'y a même pas de pression, il n'y a rien, il n'y a même pas de joueur de l'impact. Il y en a un qui traîne là, mais qui est couvert de chez couvert. Donc, il n'y a aucun danger, et, enfin, la tête piquée et tout le bazar, c'est complètement incompréhensible.
Je t'ai dit que j'étais positif cette semaine, donc c'était un but marqué.
Ah oui, mais il faut que je contrebalance, alors. Il faut que je sois super négatif, et puis en plus, on va parler du gardien, alors imagine.
Mais c'est un magnifique but, c'est un magnifique but, faut le dire, hein.
Ah oui, il est super.
Il le met dans les buts adverses.
Oui, mais bon, j'ai l'impression que, je sais pas, il essaie de passer une audition pour être recruté par l'Impact, on dirait, comme à chaque fois, quoi.
Mais ça bon, serait pas une mauvaise chose, mais bon, ça
serait... Il veut tellement venir ici, ça en est rendu ridicule. Mais bon, tout ça pour dire qu'ils ont marqué juste deux buts, et puis que ces deux buts-là ont été marqués, comme je l'ai dit tantôt, quand Chouanière est monté au jeu et s'est mis à courir. Soudainement, il a créé des ouvertures, il a semé un peu la zizanie dans une défense qui est très très fébrile, on le sait. Donc, est-ce qu'ils ont très bien attaqué? Non, je dirais pas. Ils sont pas vraiment créés de grosses occasions pendant le reste du match. C'était un petit peu pénible. Et est-ce qu'ils ont hyper mal défendu? Oui, je pense que Quentin en a amplement parlé déjà dans sa réponse tantôt. Donc, c'est un match à oublier, quoi. Mais à oublier en notant quand même les leçons, parce que comme je le disais dans mes trois constats sur Vieux Parc, on se répète, puis ça devient lassant, quoi.
Ah, parce que les matchs à oublier, il y en a déjà eu quelques-uns. On a l'impression qu'ils les ont vraiment oubliés sans retenir les leçons, quoi.
Ouais, exactement, c'est ça. Donc, il faudrait commencer à prendre des notes, peut-être, ou je sais pas, lire les trois constats, quelque chose.
Écouter les coups francs, oui.
Entre autres.
J'ai regardé un petit peu les derniers matchs. Ils ont déjà été efficaces, outre le but contre son camp de Camara, passons. Mais je veux dire, ils en ont quand même mis deux. Voilà, le coup de pied arrêté et la belle frappe d'Urruti. Sur les 10 derniers matchs, l'Impact, il y a qu'un seul match où l'Impact n'a pas marqué sur les 10 derniers matchs. Donc c'est quand même la preuve d'une équipe qui, malgré tout ce qu'on peut dire sur le plan offensif, malgré le manque de réussite ou de routine, sauf sur ce match-là, mais sur la saison, etc. Malgré tout ce qu'on peut raconter, l'absence de Piatti pendant une bonne partie de la saison, et même sur ses 10 derniers matchs, il a quand même été absent longtemps, l'Impact de Montréal marque des buts. La seule fois où ils n'ont pas marqué sur ces 10 derniers matchs, et dans ces matchs, je compte le championnat, c'était contre Toronto. Donc, globalement, l'Impact s'est marqué des buts. Sauf que, alors même qu'ils ont marqué quasi sur les 9 matchs, sur les 10 derniers, ils ont gagné que 4 fois. Donc, c'est quand même, finalement, que la défense est peut-être pas autant une base sur laquelle l'Impact peut construire. Parce que s'ils marquent des buts à tous les matchs et qu'ils n'en gagnent pas, c'est bien qu'il y a un problème. Donc, c'est aussi quand même que les problèmes défensifs, peut-être, sont plus récurrents qu'on ne l'avait soupçonné jusqu'à maintenant. Parce que on s'était peut-être un peu concentré sur le manque de réussite offensive d'Urruti, etc. Mais en fait, on est en train de découvrir, malgré tout, que l'Impact encaisse un paquet de buts depuis pas mal de temps déjà.
C'est vrai que là, défensivement, c'est pas extraordinaire, mais moi, je garde quand même en tête la réflexion que la défense prend tellement, tellement, tellement de matchs à son compte, et que c'est arrivé tellement souvent que quand la défense ne répondait pas aux attentes, l'attaque ne pouvait rien faire pour elle. Bon, voilà, quand ils en prennent 6 buts, l'attaque peut pas en marquer 7 aussi, on va la dédouaner là-dessus, évidemment. Mais que l'inverse n'était pas vrai, et que l'attaque finalement répondait. On s'est quand même souvent dit que l'attaque ne répondait que trop rarement aux attentes, et que souvent, ça, heureusement que la défense était là aujourd'hui. Et même s'il marquait des buts, c'était deux occasions de but. Donc c'est un hyper réalisme. Et même là, comme Eric en a parlé tout à l'heure, ils ont marqué 3 buts sur 2 occasions. En gros, c'est quasiment ça. Donc, est-ce qu'on peut être hyper réaliste comme ça sur toute une saison? Moi, je pense que ce n'est pas tenable, et qu'à un moment donné, il y a l'édifice qui craque, et il commence par craquer par la défense, et peut-être que c'est une conséquence de tout ça. Donc, bon, je trouve qu'ils ont pas bien attaqué non plus à Colorado. Est-ce qu'ils ont si mal défendu que ça? Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais vu qu'il y a un auditeur qui a donné la réponse, en fait, il y a plus qu'un auditeur, j'ai cité un nom, mais il y en a pas mal qui l'ont dit, gardien ou bouche. J'ai pas mis bouche comme mot à comme réponse à la question. Mais j'étais très tenté de mettre bouche. Et après réflexion, je me dis, sans bouche, l'Impact repart pas forcément bredouille. C'est un tout autre match quand même.
Ah, ils peuvent partir avec les 3 points, hein. Ça, c'est sûr, il a fait 4 bourdes énormes. Il y a 4 buts pour lui. Il y a 4 buts pour lui, globalement. Même si, je l'ai dit, c'est aussi le résultat collectif. Mais la plus grosse erreur, c'est Bouche qui l'a fait. et sur 4 buts. Donc si tu retires 4 buts à Colorado, bah tu fais le compte, l'Impact gagne. Alors on peut, avec des si, on peut en faire hein, des choses. Si Camara met pas un but contre son camp d'anthologie, voilà. Donc c'est sûr que Bush est le principal fautif. Après sur la défense, toi dans ta description que t'as fait, t'as un peu scindé l'attaque et la défense en disant bah l'attaque c'est fait pour mettre des buts et la défense c'est fait pour défendre, ce qui au demeurant est vrai hein, mais il faut quand même aussi mettre la notion collective dans cette chose là.
Oui, et je parle pas forcément juste des attaquants et des défenseurs, mais je parle plutôt du bloc qui a, et du collectif qui a,
exactement,
qui a défendu, c'est ça que je veux dire par là.
Exactement, c'est là où bah on se rejoint sur le bloc. Et d'ailleurs quand Omar Brownie se fait enguirlander par Rémi Garde, pour c'est bien pour un repli défensif. Et c'est d'ailleurs, il joue plus en ce moment, sans doute à cause de ce genre de lacunes. Peut-être il y en a d'autres, mais c'est aussi cette notion-là que tout le monde doit défendre, dans même les attaquants. Et Urruti, s'il joue autant, c'est bien parce que au niveau de l'implication et du repli défensif, bah là on peut pas lui reprocher grand-chose.
Mathias, quand tu disais que l'édifice commence à craquer, là, est-ce que tu sous-entends qu'il va s'effondrer bientôt?
Bah, se prendre quoi 5 défaites en 6 matchs, dont un 6-3 à Colorado, on est pas loin d'un effondrement hein. Il faut vite, et je vais reprendre mon mot là cette fois-ci, mais il faut vite receler les bases et les fondations de l'édifice hein, parce que il y a quelques trucs qui commencent à tourner par rond. Et moi il y a quelque chose qui m'a frappé dans les commentaires ce week-end, c'est les réactions aux résultats de New York-Toronto. C'est qu'il y a quelques semaines, à l'Impact, les gens, les médias, les supporters, ils regardaient davantage devant. Et donc, la question aurait peut-être été, ah, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas, finalement, parce que Toronto a perdu, oui, donc il reste derrière. Ça, je parle avant le match à Colorado, mais New York a gagné, c'est dommage, on aurait pu les rattraper, peut-être les dépasser et rester collés au basque. Là, non. Tout le monde regardait Toronto et tout le monde disait « Ouf, Toronto a perdu ». Donc, tout le monde regarde derrière. Ça m'inquiète aussi.
Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, moi aussi, je commence à me demander si l'effondrement n'est pas à nos portes.
Ouais, on sent l'inquiétude. Hein.
Beaucoup, beaucoup. Surtout avec ce qu'on a vu là, de Bush. Là. Je pense que c'est un petit peu à l'image du reste aussi. On retombe dans les travers et puis personne semble donner le coup de gueule nécessaire pour en sortir. Donc attention quoi.
Ouais, mais ça, attends, la défaite 7-1 à Kansas City, on avait dit dans cette même émission coup franc, il y a un gros problème de leadership à l'Impact. Quand tout va bien, il y a plein de leaders sur le terrain. Quand tout va mal, il y a personne qui prend l'équipe sur ses épaules. Ça fait plusieurs mois. Hein. Qu'est-ce qui a changé depuis lors?
Rien, absolument rien. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et il y a rien qui change, quoi. C'est comme ça à l'Impact depuis longtemps, quoi. Ce problème de leadership là, moi, je l'évoquais déjà l'année passée dans mes 3 constats assez fréquemment. Donc, c'est quand tu sors un type comme, ben, on va revenir à ça, mais c'est pas une question de nationalité ou quoi que ce soit, mais quand tu sors un type comme Laurent Simon de ton groupe pour rentrer des gens qui ont pas la moitié de ce leadership là, ben après t'en payes le prix quoi. En même temps, il y a Bernier qui a pris sa retraite et tout ça, puis c'est après quand ton dernier leader c'est un type qui est responsable directement de 4 buts dans une défaite de 6-3, ben ça regarde mal quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr. En tout cas, je vous rejoins sur le manque de leadership et justement, là, je regardais le calendrier à venir. C'est vraiment des équipes qui ont besoin de points autant que l'Impact et c'est strictement le mental. Or, avec ce qu'on a vu sur le manque de leadership, bah, soit il y a des gens qui se révèlent ou il y a un esprit collectif qui se révèle très rapidement dans les jours qui viennent, Ou alors, bah, l'impact va continuer sa glissade parce que, au final, c'est une glissade toute cette saison, c'est une glissade en pente douce et parfois avec des moments un peu plus raides, notamment la défaite à Kansas, la défaite à Colorado, la défaite à domicile contre Minnesota, ça c'est des moments plus raides. Mais si on regarde sur la globalité de la saison, bah, c'est une descente en pente douce et qui peut aller jusqu'à la 8e place.
On parle de descente, mais la semaine passée, il y a eu une grosse montée. Alors, je rappelle quand même certaines des questions qu'on posait la semaine dernière. Vous savez qu'à coup franc, on essaye d'être modéré quand même, et puis que quand tout le monde est défaitiste, on essaye de trouver des points positifs, et que quand tout le monde est jovialiste, on essaye un petit peu de tempérer tout ça. Et la semaine dernière, on a posé énormément de questions. Par exemple, est-ce que l'animation offensive peut fonctionner contre des équipes aussi radicalement différentes du style de Philadelphie, ou est-ce que Lapalainen, Okonkwo et Piatti peuvent atteindre le même niveau combiné chaque semaine? Je pense que ce match contre Colorado a malheureusement répondu à ces questions, mais il faut pas penser que tout sera comme le dernier match, donc tout sera pas aussi catastrophique que cette défaite à Colorado, à commencer par la dernière d'ailleurs, j'espère, et tout sera pas aussi extraordinaire que contre Philadelphie. Et pour en revenir à une des deux questions de l'animation offensive qui peut fonctionner contre des équipes au style radicalement différent, ben oui, Philadelphie c'est une équipe joueuse. Si vous avez vu sa victoire hier 1-5 à DC United, à un moment donné c'était 1-3. Tu gagnes 1-3 chez un concurrent direct, n'empêche, même si je pense que DC United va finir loin derrière Philadelphie. Et Philadelphie partait à l'attaque ou la fleur fusée, essayait de marquer un quatrième but et à plusieurs moment du match, ils ont failli en encaisser un, et DC United revenait au score, 2-3, ça commence à être un tout autre match. Mais ça, c'est Philadelphie, ils sont comme ça, et ben une équipe comme l'Impact, ils adorent, et ils peuvent vraiment, vraiment en profiter, surtout quand t'as Okonkwo, Piatti et Lapalainen dans un grand jour. Colorado, c'est pas du tout ça, donc est-ce que, à la limite, il faudrait pas deux attaques différentes en fonction un petit peu plus du profil de ton adversaire? Parce que Okonkwo, Lapalainen, Piatti, oui, ça va encore donner des grandes joies, j'en suis certain, contre des équipes contre lesquelles on peut profiter des espaces, qui aiment pas du tout les adversaires qui courent, et la vitesse de Lapalainen, la puissance d'Okonkwo, l'intelligence de jeu de Piatti qui s'est libéré d'espace, des espaces, et à ce moment-là aussi le travail d'Urruti qui va être très utile, pas pour marquer des buts mais pour les autres, ça va payer, oui, c'est certain. Mais pas tout le temps. Il faut pas croire que ça va tout le temps être comme ça. Faut pas croire non plus que ça va tout le temps être tout noir comme à Colorado. Mais à Colorado, il aurait peut-être fallu autre chose aussi, parce que les choses de base qui n'ont pas fonctionné, c'était peut-être aussi un petit peu en raison de l'adversaire, même s'il était mauvais.
Ouais, ben cette saison, il y a eu des tentatives de changement. Il y a eu un moment un passage à trois défenseurs centraux, enfin à cinq. 3 ou 5 derrière, c'est selon où les latéraux se situaient. Il y en a eu, mais au final, offensivement, sur ce que ça a toujours été relativement similaire, et surtout le 11 finalement a peu bougé. Je veux dire, quand tout le monde était disponible, le 11 était sensiblement le même finalement, quel que soit le système, hein, un ou deux changements maximum près. Donc il faudrait s'adapter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a déjà été un peu fait par le passé. Le problème, c'est que c'est pas toujours le bon match, pas toujours la bonne période. Et il faut aussi le sentir, le changement. Il faut qu'il soit opportun. Et ça, c'est tout le défi du staff, évidemment.
Bon, on a parlé tout à l'heure de Bush. On a beaucoup dévié sur le sujet. Eric, en début d'émission, nous a expliqué qu'il en avait long à dire sur le gardien. On sait que c'est notre spécialiste intramuros en gardien de but. Donc vas-y, Eric, fais-toi plaisir, lâche-toi.
Ben en fait, non. Je pense que t'as mal compris où je m'en allais. C'est pas que j'en ai long à dire. Il y a plus rien à dire. Je pense que on a fait le tour 1000 fois déjà. La seule chose qui est bien, je pense, dans cette performance, si on peut appeler ça comme ça, de Bush, c'est que maintenant tout le monde a vu les problèmes et les lacunes. C'était d'une évidence claire, nette. C'était limpide. On peut plus passer à côté.
Ah, il y en a qui vont te dire, oh, mais il était dans un jour sans.
Oui, ben, on aura juste à pas les écouter, c'est tout. Mais, parce que là, à un moment donné, je pense qu'il y a suffisamment d'exemples récurrents.
Eric est à fond.
C'est pas que je veux pas les écouter, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les frais. C'est comme avec Jackson Hamel. Combien de chances il faut lui donner à un moment donné? Je sais pas, ça suffit, quoi. Enfin. Ceci dit, respect à Jackson, j'aimerais le voir réussir, mais à un moment donné, si ça marche pas, ça marche pas. sais, bon, je suis content pour lui d'ailleurs qu'il y ait de l'intérêt ailleurs en MLS. Peut-être qu'il va se relancer là-bas, tant mieux, mais à Montréal, force est de constater que ça ne marche pas. Mais bon, revenons à notre ami Bush. Je veux dire, il y a plus rien à dire. Il y a juste plus rien à dire. Je pense que tout a été dit, tout a été illustré. On avait la solution sous la main l'année passée pour un changement en douce avec un gardien québécois qui gagne beaucoup moins d'argent. On a préféré lui donner une augmentation de salaire et un long contrat. Ben maintenant, voilà, c'est un autre qu'on va pouvoir ranger dans les problèmes de recrutement et dans les problèmes de gestion salariale, tout simplement. Parce que ben, j'entrevois pas la possibilité qu'il fasse mieux que ce qu'il fait depuis le début de sa saison, qui est généralement insuffisant. Mais à partir de là, on s'en va où avec Bush?
Hein? En tout cas, pour je quelqu'un qui avait rien à dire, t'en allons à dire.
Ah oui, ben non, mais en même temps, j'ai rien à dire sur Bush. J'ai des choses à dire sur la gestion du dossier, quoi. Je veux dire, on s'en va où maintenant? Et après, bon, on sait que Pantémis, c'était difficile la seule fois qu'on l'a vu. Diop, c'est jamais super non plus, donc ça va être un dossier chaud, je pense, à la fin de la saison.
Sans être aussi dur que toi, Eric, c'est sûr que je te rejoins dans l'idée que Bush est pas un top gardien, ça c'est sûr. Je te rejoins aussi sur certaines lacunes qui sont vraiment criantes, le jeu au pied, on est d'accord, et les sorties aériennes, bah là on l'a vu, c'était vraiment flagrant, mais il y avait quand même un petit peu d'amélioration ces derniers temps, mais voilà, ça reste toujours une lacune. Après, là où le problème est plus global sur Bush, c'est que malheureusement, il est pas fiable, parce qu'il est capable de sortir des très bons matchs, et on l'a souligné, par exemple, tu l'as dit aussi, le match contre Philadelphie, il sauve des points. Il sauve des points parce qu'il sort les arrêts au moment qu'il faut, justement pendant les temps faibles de l'impact, etc. Le problème, c'est que la semaine suivante, bah, il se trouve quatre fois, il perd et l'impact repart avec une valise de son déplacement chez une équipe qui était censée lui en apporter des points. Donc c'est compliqué et c'est la fiabilité qui est le plus difficile à obtenir finalement chez un gardien. Le niveau de jeu toujours équivalent, etc. Et c'est sûr que l'esprit, disons, qu'il instille chez les défenseurs, parce que c'est pas un gardien qui aspire à la sérénité, parce qu'il manque de fiabilité, capable du meilleur comme du pire. Ben ça aussi, c'est un problème finalement défensif global. Au-delà de ses capacités techniques, tactiques, etc. C'est pas un gardien qui va rassurer tout le monde. Donc c'est là qu'est le plus gros problème. Après, sur la gestion, bah ils ont fait le choix de garder Bush, sans doute parce qu'il est capable de faire des très bons matchs, et il faut le dire. Ils ont voulu miser là-dessus à l'impact. Bon bah tout en connaissant évidemment ses faiblesses, parce que le jeu au pied ou les sorties aériennes délicates, ça date pas d'hier. Donc ils ont fait ça en connaissance de cause. C'est tout, c'est une décision sportive. Il y a des fois où ça a souri comme la fois dernière, et il y a des fois où ça sourit pas comme cette fois-là. Mais globalement, bah c'est sûr que si c'est un gardien qui manque de fiabilité, bah globalement on peut dire que c'est pas forcément un bon choix.
D'autant que, et tu m'amènes vraiment de belle manière au sujet suivant, Quentin, beaucoup de monde se pose la question, et c'était un sujet récurrent cette saison, mais c'est encore plus frappé évidemment avec les deux contrastes qu'il y a eu entre les deux derniers matchs, en fait l'énorme contraste qu'il y a eu entre les deux derniers matchs, beaucoup de monde se dit « Ah, mais l'Impact, un jour il a un visage radieux et extraordinaire, il bat Philadelphie 4-0, puis la semaine suivante il va se faire planter 6-3 à Colorado. » Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans les choses qui se passent, et je pense que tu as amené un très bon point, Quentin, parce qu'il n'y a pas que Bush qui n'est pas fiable et régulier, même si c'est un des meilleurs exemples. Bon, il n'était pas là sur le terrain, mais on en parle souvent aussi à l'émission. Il y a par exemple un joueur comme Cabrera. Et il y en a quelques autres. Et je pense que ça contribue, et que cette équipe de Montréal a besoin de joueurs qui sont peut-être moins flamboyants, qui ont peut-être parfois moins de potentiel, mais dont on sait quoi attendre semaine après semaine. Et c'est d'autant plus important, je trouve, avec le calendrier resserré de la MLS, où les matchs s'enchaînent à une vitesse de dingue, et où l'entraîneur peut, en fait, doit faire tourner son effectif en sachant exactement quoi attendre de qui. Ça, c'est une des choses. Et l'autre sujet, qui est souvent expliqué par les supporters ou d'autres observateurs, ils disent « Ouais, mais on dirait qu'une semaine, ils ont envie, une semaine, ils n'ont pas envie. » Puis, j'ai réfléchi à ça, je me dis « Ouais, mais tiens, ça vient d'où ce problème de désir apparent ou non apparent ?» Puis, je me dis aussi que l'adversaire, il peut aussi être en cause. Parce que, je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure contre Philadelphie. Quand en face, t'as des types qui te laissent des espaces et que tu peux courir comme un lapin dans tes espaces que tu t'appelles Okwonkwo, ben oui que t'as envie. Forcément, tu vas avoir du plaisir pendant 90 minutes. Tu vas faire des efforts en défendant, oui, mais tu vas être récompensé par des courses et faire étaler ta puissance. Et tu vas t'amuser sur le terrain parce que ça met tes forces en valeur. Et évidemment, t'es beaucoup plus à l'aise quand tes forces sont mises en valeur. Et quand tu te ramasses contre des types qui défendent à 11, qui jouent des coudes, et que toi t'as pas envie d'être dans des petits espaces, et que t'es toujours coincé, et que tu te prends des coups, et que ça marche pas, et que tu reçois pas de ballon parce que forcément y a pas d'espace non plus pour te faire des passes. Bah oui, t'as moins envie, et c'est normal. Faut pas le reprocher aux joueurs. Quand vous êtes devant une assiette et il y a quelque chose que vous aimez manger, bah vous avez plus envie de le manger que quand vous êtes dans une assiette dans laquelle il y a quelque chose que vous aimez moins. C'est normal. Mais là, c'est exactement la même chose. Et ça se reproduit saison après saison, et c'est dans tous les clubs pareil, pour toutes les équipes, forcément. Alors oui, évidemment, c'est des professionnels, il faut qu'ils fassent des efforts, il faut que... Mais c'est pas pour ça qu'ils ont envie. Vous aussi, quand vous allez travailler le matin, vous savez ce qui vous attend pendant la journée. Ben, il y a des jours où vous avez plus envie, et il y a des jours où vous avez moins envie en fonction de ce qui vous attend. C'est pas pour ça que vous faites plus ou moins bien le travail, mais l'envie... On peut percevoir, vos collègues, parfois, ils perçoivent la différence. Ah, t'as pas envie d'être là aujourd'hui. Hein. Ouais, ben non, écoute, j'ai 350 dossiers à remplir, c'est des copier-coller, ça me casse les couilles. Ben oui, ben, c'est comme ça.
Et en plus, c'est d'autant plus pertinent sur les adversaires que la MLS est aussi un championnat où il y a beaucoup de football différent. Les équipes pratiquent vraiment des jeux qui sont très marqués, même j'ai presque envie de dire selon les régions. Il y a quand même des équipes où ça joue court, où ça va vite, etc. Et après il y a aussi des équipes où c'est des gros blocs et on le bouge pas ou peu. C'est vraiment très varié comme style en MLS, et donc ça rajoute à ce que tu dis sur justement les affrontements quand les adversaires se présentent en fonction de qui on joue. Ça peut vraiment être comme même deux pays différents finalement, si on doit comparer par exemple avec l'Europe, entre le football anglais et le football espagnol, quoi, pour faire à gros traits les comparaisons. Donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
Moi, je voudrais juste dire que quand j'ai 350 dossiers chiants à remplir dans ma journée, ben je prends quand même le temps d'allumer l'ordinateur, quoi.
Bon, est-ce que justement Bojan Krkić va réussir à allumer l'ordinateur et à résoudre par miracle les problèmes dont on a parlé ces derniers temps et qui pèsent sur la saison de l'Impact les jours où c'est plus difficile? Parce que tous les jours ne sont pas difficiles, rappelons-le.
Bah moi, je vais pas vous mentir, les gars, Bojan, ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu jouer, quoi. La dernière fois que je l'ai vu jouer, soit c'était à la fin du Barça ou c'était au début de la S-Rome. Donc c'était il y a pas mal de temps maintenant. Je veux dire, et puis je vais pas faire le faux là, aller dire je suis allé voir 10 vidéos sur YouTube et je sais comment joue Bojan depuis ces 5 dernières années. C'est pas vrai. Donc voilà, maintenant je regarde son parcours, j'ai quelques notions de comment il joue parce que évidemment je vois quand même un petit peu quel genre de joueur c'est. Comment il peut s'imbriquer à l'Impact, à part le suiveur de Stoke, si par miracle il suit l'Impact de Montréal, il pourra peut-être me l'expliquer, mais sinon pour l'instant il n'y a pas grand monde qui le sait, à part j'espère au niveau de la cellule sportive de l'Impact. Maintenant, Bojan, c'est quand même un joueur qui a fait une vingtaine de matchs chez le 16e du dernier championnat de deuxième division anglaise. Donc, on va quand même se calmer sur Bojan. Je veux dire, il a évidemment énormément de potentiel, sauf que le potentiel, on le dit depuis qu'il est passé à Barcelone, et ça fait une paire d'années maintenant. Donc, on va peut-être regarder un petit peu ce qu'il est devenu, ce potentiel, parce que des éternels espoirs, ça existe dans le foot, et ça existe beaucoup, et ça fait mal au cœur, mais dans toutes les générations, il y en a. Donc, après, il peut peut-être se révéler à l'Impact, se re-révéler, je sais pas quel serait le bon terme finalement pour Bojan, mais en tout cas, avoir un véritable apport. Après, sur mes souvenirs de son placement et de son jeu, c'est vrai que pour moi, il joue soit axial, soit à gauche, ce qui, pour moi, est le rôle de Piatti. Donc, je vois, à part si Piatti devient vraiment deuxième attaquant et que Bojan passe à gauche, mais sinon, je vois pas trop les autres possibilités, quoi.
Ouais, ben c'est un peu ça le problème, quoi. C'est t'as Urruti qui normalement devrait jouer derrière un attaquant de pointe, t'as Piatti qui joue derrière l'attaquant de pointe, puis t'as Boyan qui normalement devrait jouer derrière l'attaquant de pointe. Donc à un moment donné,
mais c'est qui l'attaquant de pointe? On ne sait plus.
Déjà, où est l'attaquant de pointe? Hein? Qui est-il? D'où vient-il?
Ah non, il est pas là, c'est vrai, il était dans l'autre équipe.
Ouais, non,
il a marqué
c'est
un
ça.
Magnifique but d'Ignan à 30 points.
Superbe. Mais ça soulève encore des questions sur le plan du recrutement, quoi. Comment sont évalués les besoins? Sachant que Rémi Garde disait à la fin de la saison dernière que ça prenait un attaquant de pointe efficace et blablabla. Ben, on en a toujours pas, et puis quand on veut sortir le chéquier, on y va sur un type qui ne correspond pas tout à fait au profil. Donc après...
Pas du tout, même.
Oui, je voulais être gentil pour une fois. Mais bon, enfin, en plus, il s'est gravement blessé il y a quelques saisons. Il était plus l'ombre de lui-même à Stoke, supposément, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires du supporter. Aïe. Hein?
Ça peut être un joueur qui pour qui la MLS est parfaitement taillée. Hein. Regarde Piatti, c'est il est technique, il est fin, et la MLS laisse suffisamment, en général, les défenseurs laissent suffisamment d'espace à Piatti et de temps pour qu'il fasse ses gris-gris, enfin, ce dans quoi il est le meilleur, en fait. Donc, Boyan peut tout à fait, s'éclater en MLS. Après, c'est ça. C'est un autre pan que s'intégrer à l'équipe. Je suis tout à fait d'accord. Là, sur l'intégration dans le 11 montréalais.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand on regardait Piatti, qui était à l'époque dans impliqué dans la Copa Libertadores, et que ça allait super bien, quand on a regardé le type jouer, on a tous dit, oh, ça va être chouette, on va s'amuser avec ce gars-là, ça va être super. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Boyan? Pour l'instant, c'est un gros peut-être. On sait pas, il y a beaucoup de points d'interrogation, on sait pas où il va jouer, on sait pas si ça va marcher, on sait pas s'il va être en forme physiquement et mentalement, parce qu'on sait aussi qu'il y a des petits problèmes de santé mentale qu'il reconnaît lui-même. Il y a pas autre chose. C'est la question que j'ai envie de poser, quoi. Il y en avait pas une autre quelque part.
Les questions et les doutes, ils viennent pas forcément de Boyan en lui-même, et je suis totalement d'accord avec vous deux. Quand vous dites que il peut parfaitement réussir en MLS et peut-être même parfaitement réussir à l'Impact, c'est pas du tout à exclure. Sauf que il y a un gros point d'interrogation et c'est ça qui est embêtant. C'est que premièrement, comme vous l'avez bien expliqué, il risque de faire double emploi. Alors qu'il y a des postes, je ne rappellerai pas que c'est celui d'attaquant de pointe où il y a personne qui marque des buts et c'est assez embêtant parce que on l'a encore vu d'ailleurs à un moment donné lors du match à Colorado quand il fallait peser sur la défense et qu'il fallait que tout le monde attaque en même temps, il n'y a plus rien qui se passait. Et ça c'est un énorme problème depuis le début de la saison à Montréal et c'est probablement pas lui qui va résoudre ce problème en jouant devant. Donc il y a le problème du double emploi, il y a le problème de l'utilisation, il y a un supporter qui supporter de l'Ajax où Boyan a joué et qui supporter de l'Impact de Montréal qui disait la meilleure utilisation que j'en verrais de ce que j'en ai vu moi à l'Ajax, c'est qu'il joue à droite et qu'Okonkwo soit en pointe, ça serait la meilleure combinaison, mais Okonkwo en pointe, je pense que s'il voulait l'essayer, il l'aurait déjà fait, même si nous on répète chaque semaine qu'on serait curieux de voir ça. On a des doutes, donc c'est un problème de son utilisation, et deux, ce qui m'embête beaucoup, mais alors là vraiment beaucoup plus, c'est que c'est encore une fois un énorme pari pris par l'Impact de Montréal, comme ça a été le cas avec Novillo, comme c'est le cas avec beaucoup trop de joueurs, et ça commence à courir sur le système, je pense, de beaucoup de supporters, et on espère que le pari va être réussi, parce que il y en a aussi des paris qui réussissent, évidemment. Mais j'espère surtout que le contrat sera en conséquence. Quand on entend en Espagne que le gars a signé pour 2 ans, qu'est-ce que ça va être si ça marche pas dans un an? On va encore être dit, on est pris avec Boyan qui touche je sais pas combien de centaines de milliers ou de millions, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des problèmes de contrat. Ben oui, mais on peut pas changer l'équipe parce qu'il y a des contrats. Et ça fait combien d'années qu'on dit ça qu'il y a des problèmes parce que le budget salarial est en train d'exploser? Ben ouais, mais là, j'espère que si Boyan signe, qu'il va réussir, c'est une chose. Mais surtout que c'est un contrat qui va jusqu'à la fin de la saison avec un salaire fixe très bas et des primes très élevées et très peu de garanties. Et puis si ça marche, ben, il y a une option, puis il peut prolonger, et tant mieux, tout le monde sera content. Mais qui est pas encore une fois un risque et un pari complètement fou qui est pris.
Ouais, parce que là, l'impact a vraiment besoin de certitude.
On en a parlé en plus tantôt avec les incertitudes, avec Bush et Cabrera, etc. dans l'équipe, mais ça en fera encore une en plus.
Ouais, voilà, ben c'est ça, c'est encore une incertitude, c'est encore un pari, comme tu dis, puis ben, l'impact, il faut quand même le reconnaître, il gagne rarement ses paris, quoi. Donc, enfin, il faut espérer que ça fonctionne. Ceci dit, pour amener un petit peu de positif, parce que, bon, quand même, il y en a, hein, ça reste quand même un joueur d'un certain niveau. Il faut aussi penser à l'après Piatti. Et si on enlève Piatti de l'équation, ben là, soudainement, Boyan, il devient quand même assez intéressant dans l'effectif. Il faut pas se le cacher non plus. Est-ce que ce recrutement-là signifie que Piatti ne sera pas là l'année prochaine? C'est aussi une possibilité.
C'est vrai, je fais mon mea culpa sur une partie de mon raisonnement parce que j'avais omis cette possibilité et que c'est vrai que recruter le successeur de Piatti à la mi-saison. Mais de nouveau, en espérant que ce soit pas un contrat de fou, voir si ça fonctionne, comme ça on l'a déjà l'année prochaine et il est déjà adapté, ça ce serait un très bon coup.
Ouais, d'autant plus que, enfin, c'est un exemple que je donne souvent, mais la passation de pouvoir entre Donadel et Piet a quand même bien fonctionné sur le même principe en fait. Donc, mais ça reste que ça sous-entend que Piatti s'en va, quoi.
Ça sous-entend que Piatti s'en va et ça ne résoudra pas les problèmes de cette saison. Il faudra toujours trouver quelqu'un qui marque des buts et qui pèse sur une défense, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine, pour que Boyan puisse lui donner des ballons.
À moins que Boyan joue gardien, on sait jamais. Ça pourrait régler un problème.
Bon, Eric, toi qui parles de gardien et qui n'avais pas grand-chose à dire sur notre ami Evan Bush, on parlait d'avenir à long terme, revenons à très très court terme. Peux-tu nous parler un petit peu du Cavalry que l'Impact va affronter ce mercredi en Coupe du Canada? En demi-finale déjà de la Coupe du Canada, oui, parce que ça va très vite, on est vite en demi-finale dans cette compétition-là, quand on joue en MLS.
Ouais, ben écoute, il faut s'en méfier. Hein. J'avais déjà, pour York, j'avais dit qu'il fallait faire attention. Pour le Cavalry, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler deux fois plus fort. C'est clairement la meilleure équipe de la CPL avec le Forge FC. Un effectif très bien équilibré, mené par Nick Ledgerwood, qui possède aussi le meilleur gardien selon bien des observateurs, le meilleur gardien de la ligue.
Il va encore faire une bourde, c'est ça que tu nous prévois?
Écoute, moi je l'ai pas vu assez jouer pour pouvoir dire qu'il est très bon, mais je vais quand même le dire pour aider l'Impact. C'est un excellent gardien, il est vraiment très bon et j'ai très hâte de le voir jouer. Voilà, c'est fait. Mais sinon, ouais, va falloir se méfier parce que c'est une équipe qui est comme Vancouver, la vue qui est très très bien organisée, qui peut faire mal. Donc ouais, va falloir attention. Donc va falloir faire attention, donc pas jouer comme au Colorado. Et puis je suis quand même curieux de voir qui va être devant la cage de l'Impact, sachant que Pantémis a un peu raté son audition. Je sais pas si on va le remettre à domicile ou si on va faire l'impasse sur lui pour ce tour-là. J'ai hâte de voir.
Est-ce que, ceux qui suivent la CANPL savent que Calgary est des champions de printemps. Est-ce que depuis la reprise, ça va toujours aussi bien? Ils sont toujours aussi en forme?
Toujours aussi en forme. Ils ont même été chercher des points à Winnipeg avec leur équipe B après tout de suite après la victoire à Vancouver. Donc ça va bien pour le Cavalry, même s'ils ont pas joué depuis en fait. Donc peut-être que la longue période de repos pourrait leur poser des problèmes en début de match. Donc ça pourrait éventuellement aider l'Impact là s'ils sortent avec toutes les armes au point.
Voilà
dans les 15 points.
Une astuce donnée par Éric Chenois à l'Impact de Montréal si il nous écoute. Bon, on arrive doucement à la fin de l'émission avec la déclaration de la semaine. Une déclaration qui ne vient pas d'une personne en particulier, mais qui a été lue un petit peu à gauche, à droite, et qui fait... La saison 2020 de MLS commence en février! Panique à bord! Que doit faire l'Impact? Catastrophe! Le bateau coule! Je paraphrase. Mais c'était à peu près ça qui a été dit, parfois en 200 caractères, parfois en beaucoup plus. attendez, je vais commencer par faire la remarque, juste pour faire une précision, la saison 2020 de MLS va commencer le 29 février. Déjà 29 février, d'habitude ça n'existe pas, d'habitude c'est le 1er mars donc. Et c'est le lendemain donc du 28 février, et la saison 2019 a commencé le surlendemain du 28 février, donc évidemment ça change tout.
Eh oui. En fait, un jour plus tôt, des fois, oui. Tu sais, c'est assez pour changer une vie, hein, on sait jamais.
En fait, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, mais dans l'autre sens, c'est que ça commence pas plus tôt. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est problématique, parce que on regarde. Je juste mettre en parallèle, surtout pour ceux qui suivent moins l'Impact de Montréal. Souvenez-vous, jusqu'au mois de juin, on a dit, oh l'Impact, ce début de saison de fou, ils ont des matchs, ça arrête pas. Ok, parfait. Là, on est au mois d'août, et l'Impact a un mois d'août de malade, ce qui est tout à fait vrai. Les autres équipes de MLS, vous pensez qu'ils n'ont pas des mois de malade aussi? Mais évidemment, parce qu'à un moment donné, il y a des matchs qui s'accumulent de tous bords, parce qu'ils doivent rattraper eux le calendrier de malade que l'Impact a eu et que eux ils n'ont pas forcément eu parce que tout le monde n'en a pas eu. Mais ils vont le rattraper, vous pensez, au mois d'août pendant que l'Impact n'arrête pas de jouer? Ben non. Donc le calendrier, ce calendrier resserré, est vraiment très 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 éprouvant pour les organismes. Et moi j'espérais que la saison régulière dure au moins 2 semaines de plus la saison prochaine. Et malheureusement, ça va être, ça va pas être le cas. Donc, ça va être assez compliqué.
Surtout qu'on prend pas en compte encore la Ligue des Champions. Je parle pour l'Impact ou n'importe qui, mais si voilà, il y a la Ligue des Champions. Là, l'Impact, on a un peu oublié que la Ligue des Champions existait, puisque depuis la finale, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue.
Ou la Ligue Cup, parce qu'il y a peut-être que l'Impact va se qualifier
aussi
l'année prochaine. Hein.
Ou la Ligue Cup, exactement. On compte pas les matchs supplémentaires que l'Impact ne joue pas pour l'instant.
Et n'oubliez pas aussi que les équipes américaines ont aussi une coupe nationale, et ils jouent en coupe des États-Unis, donc pour eux c'est la même chose, et eux aussi vont se retrouver en Ligue Cup l'année prochaine, ou en Ligue des Champions, on l'espère pour eux.
Et il y a un autre point, c'est aussi que la trêve est longue. Déjà, les joueurs qui viennent de l'étranger souvent sont assez étonnés de cette longue trêve, n'ont pas l'habitude, sont obligés de changer finalement leur façon de faire, etc. Mais là, c'est encore plus long.
Oui, et il y en a qui s'en plaignent d'ailleurs ouvertement, et qui Reto Ziegler notamment, qui et Marco Di Vaio en son temps, mais là je parle de Reto Ziegler qui déclarait cet hiver en Suisse, bah, c'est trop long, moi, je suis revenu m'entraîner en Suisse parce que je peux pas rester inactif aussi longtemps, c'est pas bon. Puis il y en a d'autres aussi, donc ça va pas être facile pour tout le monde.
Pas grand chose à ajouter là-dessus, je pense qu'on a tout dit. Oui, c'est sûr que ce calendrier condensé, c'est vraiment pas une bonne chose pour personne. Puis j'espère qu'on va revenir à quelque chose de plus logique, comme c'était avant, quoi. Finalement, je pense que ça va pas être trop long, que les équipes vont faire valoir que ça marche pas. Puis on va revenir à quelque chose de plus sensé. Comme tu dis, avec la Leagues Cup, si même pour moi, ça reste comme une espèce de prolongation du match des étoiles qui sert pas à grand chose. Parce que la Leagues Cup, c'est un petit peu une ligue inventée, une coupe inventée, quoi. Donc, je sais pas si les équipes vont prendre ça sérieusement, surtout avec un calendrier condensé. Je pense qu'on va voir des alignements un petit peu hybrides. Puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont espérer se faire éliminer tôt pour pouvoir faire autre chose que ça, quoi.
Malgré tout, ouais, ça va rentrer dans le calendrier. Maintenant, une autre chose que je suis curieux de voir, c'est que cet hiver, il va y avoir la renégociation de la convention collective avec les joueurs. Et on sait que dans les ligues nord-américaines, c'est quelque chose qui pèse et qui est beaucoup plus important que dans les championnats européens et les autres continents. Comment est-ce que les joueurs vont se servir de ce calendrier condensé qui est beaucoup plus dur sur leurs organismes comme levier de négociation? Ça aussi, c'est une chose qui serait intéressante d'observer. Sur ces observations qui, elles, seront pour l'hiver prochain, il y en aura beaucoup d'autres à faire d'ici là. Nous mettons fin à notre émission de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Merci, messieurs, Eric Chenois, Quentin Parisis, de votre participation. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Coup Franc sur Vioparc, sur ImpactSoccer.com et sur tous les diffuseurs habituels. Et on vous souhaite de bons matchs, beaucoup d'amusement, et on vous dit à la semaine prochaine.